Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Radio, il est 11h passé de quelques secondes. Un très grand bonjour à toutes et à tous. Et comme chaque samedi à 11h sur votre radio locale, le moment est venu de retrouver votre émission littéraire. En effet, jusqu'à midi, c'est Wagon Livre. Et en ce samedi 8 novembre 2025, nous vous proposons la deuxième et dernière partie du compte-rendu de la 8e édition de Tous Historiques, journée du livre consacrée à l'histoire, qui s'est tenue le 23 août dernier dans l'église fortifiée de Toussy, exceptionnellement mise à disposition pour cette occasion. Une journée qui mettait à l'honneur toute la palette des genres littéraires liés à l'histoire universelle, romans, biographies, essais, mais également bandes dessinées et livres jeunesse. Une quarantaine de professionnels, auteurs, dessinateurs, conférenciers, journalistes, éditeurs, étaient présents pour cette très belle manifestation qui mobilise beaucoup d'énergie, mais qui a une véritable notoriété et qui est particulièrement suivi par les passionnés d'histoire locale ou d'histoire nationale. L'édition 2025 était présidée par l'historien Éric Branca et le journaliste Olivier Mazerolle en était l'invité d'honneur. Alors au sommaire de Wagon Livre en ce samedi 8 novembre 2025, vous aurez l'occasion d'entendre le trésorier de l'Association pour la documentation, l'information et l'archivage des mouvements sociaux, plus connu sous l'abréviation ADIAMOS 89. Nous vous proposerons en effet un reportage avec Denis Martin qui a fait paraître deux travaux historiques, l'un sur le grenier d'abondance d'Auxerre, 1860-1903, et un autre travail historique, les réalisations sociales à Auxerre, au temps du Front populaire. Mais je vous propose d'ouvrir notre émission avec Alain Robert, qui aime promouvoir le patrimoine bourguignon et ceux qui le font vivre. Il est d'ailleurs l'auteur de plusieurs ouvrages sur la Bourgogne, mais lorsque nous l'avons rencontré le 23 août dernier à Toussy Historique, Alain Robert nous a présenté son dernier travail paru aux éditions Sutton, qui a pour titre « Lyonne, page d'histoire ». Sans tarder, faisons connaissance avec Alain Robert.
Alors, je m'appelle Alain Robert, je suis connais depuis 1996, et donc j'ai décidé d'écrire depuis les années 2000. J'ai commencé par quelques articles dans l'Almanach Bourguignon, qui était édité aux éditions CPE, et puis mon premier livre d'histoire portait sur les paysans bourguignons. Et donc là, à Tous Historiques, je suis venu présenter deux livres. Gabi au temps de Colette, voilà. Enfin, au pays de Colette, qui est un livre pour les enfants, avant tout, pour leur présenter l'œuvre et la vie de Colette à travers un récit qui s'adresse à des enfants d'une dizaine d'années à peu près. Voilà. Or, c'est un récit qui est indirect, qui peut se lire comme une agréable histoire. Et puis, chaque chapitre est ponctué par un petit texte documentaire qui explique avec des termes simples quelle a été la vie de Colette, cette grande femme de lettres, qui est donc née à Saint-Sauveur, hein, il faut le rappeler. À Saint-Sauveur, elle est née en 1873 à Saint-Sauveur. Elle va devenir parisienne et mourir à Paris en 1954. Mais donc, ce livre, je l'ai aussi conçu pour le musée Colette, qui est mon petit préféré, hein, j'ose l'avouer, par rapport à la maison Colette. Donc, le musée Colette, où vous pouvez trouver mon ouvrage, voilà, pour servir un peu de médiateur avec les plus jeunes générations.
Ou sur le site des éditions Temps Impossible.
Tout à fait, puisque c'est une maison d'édition donc iconaise, voilà, qui a voulu mettre en avant le livre et la vie de Colette, puisque sa spécialité à temps impossible, c'est quand même aussi l'histoire locale.
Alors Alain Robert, nous allons nous intéresser à votre récente publication, Lyon, page d'histoire, c'est aux éditions Sutton. Alors évidemment, c'est très très riche et très dense, ça couvre l'ensemble du département de Lyon, donc on va oublier forcément certains villages, certaines villes, l'histoire est riche dans Lyon. Et vous Alain, vous avez quelques petites, je ne sais pas si ce sont des préférences, mais des envies de mettre en valeur peut-être des aspects historiques de ce département de Lyon qui vous semblent peut-être méconnus et qui méritent un petit coup de projecteur.
Alors oui, écrire c'est choisir de toute façon. Hein. Donc c'est vrai que le département est tellement riche d'histoire qu'il a fallu que je sélectionne et il a fallu que j'élabore un subtil mélange entre des sites incontournables et des choses peut-être un peu moins connues. Alors, comme vous l'avez précisé, je commence par la préhistoire avec les grottes d'Arcy-sur-Cure qui sont un incontournable, bien entendu. Et puis dans la période gallo-romaine, là aussi très riche, avec notamment les dernières découvertes sur le site de Sainte-Nitas au sud d'Auxerre, par exemple. J'ai parlé évidemment de Sens et des Sénons, qui est une grande tribu gauloise du nord de Lyon. Mais j'ai voulu beaucoup aussi parler de la Puisaye, parce que c'est une préférence purement personnelle.
Alors, c'est vrai que nous sommes, cher Alain Robert, à la 8e édition de Toussy Historique, hein, journée du livre d'histoire. Alors Toussy, c'est la figure de Pierre Larousse, mais pas que.
Ah non, pas uniquement. Et c'est vrai que pour Toussy, spécialement, j'ai voulu évoquer la période des guerres de religion. Parce que je voulais, surtout par rapport à mes lecteurs, qu'ils prennent conscience que la région de la Puisaye a payé un assez fort tribut, j'allais dire, pendant cette période de l'histoire. Et j'ai détaillé assez précisément, notamment, cette période de la chevauchée, c'est comme ça qu'on appelait les expéditions de l'armée anglaise du roi Édouard III. Voilà. Et donc Toussy a été, toute la région, toute la Puisaye a été marquée par ces désastres, et notamment par la suite, après la bataille de Cravant, Toussy a été assiégé, alors pour le coup, par les Bourguignons. Voilà. Et c'est à cette époque que Toussy va perdre son château ancien, dont on n'a plus de traces aujourd'hui, et notamment son donjon, qui devait être situé pas loin d'ici, hein, pas loin de l'église. Et il va falloir attendre plus d'un siècle après ce massacre de Toussy et la dévastation de la ville pour qu'on ait un nouveau château qui soit construit hors les murs. Et c'est ce château que tous les Toussysois connaissent maintenant, qui est donc un petit peu en périphérie de la ville.
À l'instant, un autre micro, Alain Robert, pour son essai historique intitulé « Lyon, page d'histoire, en effet, de la préhistoire à la Seconde Guerre mondiale ». Alain Robert nous propose de redécouvrir le passé prestigieux de notre département de Lyon à travers l'évocation de certains événements marquants. Il nous invite, par exemple, à explorer la grande grotte d'Arcy-sur-Cure, à nous laisser envoûter par le mystère des cinq murs du château de Mône dans le Tonnerrois, ou à faire connaissance avec le père Leleu, troglodyte de l'Avalonnais. Et puis, avec cet essai, Alain Robert sait également nous faire partager la passion des hommes et des femmes qui se consacrent à faire revivre ces pages d'histoire. Nous marquons un premier intermède musical et ensuite nous redonnerons la parole à Alain Robert. Tout de suite, c'est Lazara qui va nous accompagner avec son titre Diva. Je rappelle que si vous venez de nous rejoindre, c'est effectivement Wagon Livre, votre émission littéraire, et c'est sur Radion.
Sans scrupules et sans façon, un whisky sans les glaçons. J'ai l'amour comme les garçons. Et on me dira que je suis une diva. Ah bon, j'ai le cœur en carton. Je suis qu'une contrefaçon. J'ai beaucoup trop le melon pour plaire au con. Je me maquille au vol.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Je rappelle qu'il s'agit aujourd'hui du compte-rendu de la 8e édition de la journée du livre d'histoire qui s'est tenue le 23 août dernier dans l'église fortifiée de Toussy, Toussy historique. La 9e édition 2026 est déjà en préparation. Je rappelle que dans quelques minutes, nous aurons à notre micro le trésorier de l'association Adi Amos qui nous présentera deux travaux historiques qu'il a réalisés concernant Auxerre, le grenier d'abondance d'Auxerre 1870-1903, c'est aux éditions Adi Amos 89, et un autre essai, les réalisations sociales à Auxerre au temps du Front populaire. Mais juste avant, la diva interprétée par Lazarane, nous nous entretenions avec Alain Robert qui a signé aux éditions Sutton un ouvrage intitulé « Lyonne, pages d'histoire ». Je vous propose de découvrir avec lui les Ferriers de Puisaye. Alain Robert enregistré le 23 août dernier lors de la 8e édition de Tous historiques.
Pour la période gallo-romaine, effectivement, j'allais en parler. Tanner en Puisaye, peut-être que les gens connaissent, ne connaissent pas ce mot justement de ferrier. C'est un site d'extraction des mines de minerais de fer, tout simplement, qui ont été exploitées dès la période gallo-romaine et qui ont ensuite été réexploités. Donc là, c'était les scories qu'on exploitait au début du XXe siècle jusque dans les années 50-60. Voilà. Donc c'est le ferrier donc, de la Garenne, qui est un site qu'on peut visiter, hein, qui est vraiment particulier, où on retrouve toutes les traces. Alors la végétation a repris ses droits, hein, mais on retrouve toutes les traces. Et puis surtout, dans mes livres, j'ai toujours à cœur de parler des associations et des gens qui font vivre le patrimoine. Et donc il y a une association des ferriers qui tous les ans refont une fonte, puisqu'il y a des bas fourneaux. On sait, les archéologues savent comment on extrayait de la loupe de fer. Et donc, ils refont des fontes. On a encore un site avec une petite forge et puis un bas fourneau qu'on peut voir sur une petite place.
Alors, non loin de nous, géographiquement, de Toussy, Alain Robert, il y a Fontenoy.
Alors, Fontenoy, oui, pareil, c'est... Comme je dis dans mon livre, sur le guide bleu de la Bourgogne, Fontenoy, c'est trois lignes. Je commence mon chapitre comme ça. Alors que c'est une des dates, j'allais dire fondatrice, j'exagère un peu, mais fondatrice de la France et même de l'Europe, quelque part. Puisque ce qui va devenir par la suite la France et puis certains autres pays européens, ça va naître du partage d'un héritage de Louis Ier, donc l'héritier lui-même du fameux Charlemagne. Et donc lui a trois fils, et ses trois fils vont se battre avec des alliances, chacun de leur côté. Et cet épisode de l'histoire va se passer, c'est-à-dire les forces sont en présence. Et bon, c'est l'histoire, c'est le moment de l'histoire qui va vouloir que ces forces vont s'affronter à Fontenoy. Alors il faut imaginer vraiment à l'époque un tout petit village. Hein. Et donc ils s'affrontent. Et deux ans après, on a le fameux traité de Verdun qui va séparer... l'héritage, j'allais dire, de Charlemagne en trois grands royaumes, dont la future Bourgogne des ducs.
Voilà. Alors Alain Robert, dans votre livre, bien sûr, il y a référence à beaucoup de personnages. Jeanne d'Arc dans Lyon, qui passe à Auxerre en 1429. Vous parlez de Vauban, incontournable Vauban, né à Saint-Léger. Le Pelletier de Saint-Fargeau. Et puis, évidemment, vous vous arrêtez à Sens, à Auxerre, à Pontigny, à Toussy, à Avallon, à Carré-les-Tombes, à Joigny et plein d'autres localités de Lyon. Et des aspects très intéressants, Napoléon dans Lyon, vous parlez de la Grande Guerre, de l'occupation. Tout cela est vraiment très, très passionnant. Puis tous les châteaux qui attirent tant de touristes, le château de Druy-les-Belles-Fontaines, le château de Meaune, le château d'Ancilfranc, le château de Saint-Fargeau, et puis il y a tous ces villages, le village de Montréal, Tonnerre et son hôtel Dieu, le Noyères-sur-Serein. Enfin, votre livre est très, très riche. Vous êtes certain de n'avoir oublié personne, Alain Robert ?
Si, j'ai oublié du monde quand même, hein, évidemment. Alors, bon, On peut citer évidemment ceux que les incontournables quand même que je n'ai pas oubliés, qui sont les châteaux de Tanlay. Évidemment, mes lecteurs vont retrouver ce que j'estime être, moi, l'essentiel des lieux. Mais là, en salon, je discute avec justement les gens qui sont des férus d'histoire locale et on a l'impression que partout, il y a quelque chose. On entend parler de souterrains à Mézilles, on entend parler de carrières abandonnées dans le Célonais, par exemple. Bon, on les voit encore dans le paysage, hein, il y a des marques dans le paysage. Pas loin de chez moi, il y a des mines préhistoriques, des mines de silex. Les travaux archéologiques. J'ai envie de dire, dans Lyon, comme beaucoup d'endroits en France, dès qu'on commence à creuser quelque part, on va tomber sur un vestige du passé. Hein. On n'appelle pas l'Europe le vieux continent pour rien.
Alors, dans ce livre, dont je rappelle le titre, hein, Lyon, page d'histoire, c'est aux éditions Sutton et c'est sorti à l'automne 2024. Vous vous arrêtez à une localité que vous connaissez assez bien, c'est Villeneuve-sur-Yonne, avec aussi le souvenir d'un historien, quelqu'un que j'ai eu devant ce micro de wagon-livre et qui n'est plus de ce monde, c'est Jean-Luc Dauphin et Villeneuve-sur-Yonne.
Alors oui, Jean-Luc Dauphin, alors je l'ai côtoyé à quelques reprises. Il faut dire aussi tout simplement que j'habite pas loin de Villeneuve-sur-Yonne, donc c'est aussi quelqu'un, pour moi, c'était quelqu'un dans la lignée des érudits du 19e siècle.
Et drôle en plus.
Oui, très spirituel et puis quelqu'un qui animait beaucoup le patrimoine du Villeneuvien. Donc là, comme vous le citiez, dans le livre, j'ai choisi de conclure le livre sur l'interview de Madame le maire de Villeneuve-sur-Yonne qui s'est prêtée au jeu, sincèrement et puis en toute simplicité, parce que je voulais l'interroger sur les difficultés que rencontrent les élus à entretenir ce patrimoine que nous, les écrivains, on va dire régionalistes, pour faire simple, qu'on essaye de mettre en valeur. Et en fait, ce sont des heures de paperasse, des heures de demande de subvention, des heures de présence. C'est aussi le travail de beaucoup de personnel, administratif en mairie, parce que monsieur le maire ou madame le maire ne veut pas tout faire. C'est aussi des associations qui vont prendre en charge, elles, certains dépôts de dossiers de subvention pour pouvoir restaurer des choses. Et s'il y a des Villeneuviens, Villeneuviennes, donc qui écoutent là cette émission, ils savent que l'église de Villeneuve, elle est en restauration, enfin perpétuelle, j'allais dire. Les travaux ont bien avancé. Il y a eu, j'en parle justement à la fin, il y a eu vraiment, les cloches ont été restaurées. Justement, madame le maire, Nadège Naz, donc, m'a expliqué qu'ils avaient été obligés de prendre des enregistrements numériques de cloches pour pouvoir célébrer les messes avec les cloches, puisque les cloches étaient parties en restauration, en Autriche, je crois, chez des fondeurs, voilà. Et donc, bon, tout ça, c'est une organisation. Et il faut qu'on se rende compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui œuvrent dans l'ombre pour que nous, simples visiteurs, souvent, on puisse profiter des richesses patrimoniales du département.
Enregistré le 23 août 2025 dans l'église fortifiée de Toussy à son stand, c'était Alain Robert qui signe donc aux éditions Sutton Lyon, page d'histoire que vous pouvez vous procurer dans toutes les bonnes librairies de Lyon, de France et de Navarre. On va marquer un nouvel intermède musical. Juste après, nous nous plongerons dans l'histoire de Auxerre avec notamment le trésorier de l'Association pour la documentation, l'information et l'archivage des mouvements sociaux, Adiamos 89. Denis Martin, en effet, nous présentera son travail sur le grenier d'abondance d'Auxerre, mais également sur les réalisations sociales à Auxerre au temps du Front populaire. Petite virgule musicale dans votre wagon-livre sur Radio, dans ce samedi 8 novembre 2025, je vous propose « La maison où j'ai grandi » interprétée par Françoise Hardy.
Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses. Je vois des roses dans un jardin, là où vivaient des arbres maintenant. La ville est là, et la maison, les fleurs que j'aimais tant n'existent plus. Ils savaient rire, tous mes amis. Ils savaient si bien partager mes jeux. Mais tout doit finir pourtant dans la vie. Et j'ai dû partir les larmes aux yeux. Mes amis me demandaient pourquoi pleurer. Découvrir le monde vaut mieux que rester. Tu trouveras toutes les choses qu'ici on ne voit pas. J'y laissais mon cœur. Tous mes amis enviaient ma chance. Mais moi je pense encore à leur bonheur, à l'insouciance qui les faisait rire. Et il me semble que je m'entends leur dire: je reviendrai un jour, un beau matin, parmi vos rires.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci de votre écoute et de votre fidélité. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Radion dans Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour le compte-rendu de la 8e édition de Tous Historiques. C'était le 23 août dernier dans la cité natale de Pierre Larousse. Juste avant la pause musicale, vous avez pu entendre Alain Robert qui nous présentait son travail paru aux éditions Sutton, intitulé « Lyon, page d'histoire », effectivement une très belle occasion, avec un ouvrage richement illustré, de redécouvrir l'histoire du département de Lyon de la préhistoire à la Seconde Guerre mondiale. Je l'avais annoncé au sommaire de notre rendez-vous littéraire, nous allons d'ici quelques minutes entendre le trésorier de l'association Adi Amos 89. Adi Amos, cela veut dire Association pour la documentation, l'information et l'archivage des mouvements sociaux. C'est Denis Martin à qui nous avons tendu notre micro au stand de cette association pour deux essais historiques, l'un intitulé « Le grenier d'abondance d'Auxerre 1860-1903 ». En effet, dans l'histoire de France, la crainte de la famine est très grande, mais c'est aussi valable dans toutes les sociétés occidentales. Le pain étant la nourriture de base du peuple tout entier, le manque de blé, la pénurie de farine provoque régulièrement des émeutes et des pillages. Alors pour prévenir ce danger, le gouvernement institue en 1858 l'obligation pour les villes de constituer des réserves de farine ce sera la création des greniers d'abondance. Autre travail de Denis Martin dont il sera question dans le reportage que vous allez pouvoir découvrir d'ici quelques secondes, les réalisations sociales à Auxerre au temps du Front populaire. Ces deux publications sont disponibles sur le site internet de Adiamos 89. Sans tarder, faisons connaissance avec Denis Martin.
Je m'appelle Denis Martin, je suis le trésorier d'Adiamos 89. Adiamos 89, c'est une association loi 1901 et l'acronyme signifie Association pour la documentation, l'information et les archives des mouvements sociaux.
Alors c'est effectivement une association qui s'intéresse à l'histoire locale en lien aussi avec les grands événements nationaux. Denis Martin, vous avez beaucoup travaillé, entre autres, sur la Première Guerre mondiale dans Lyon. Vous avez d'ailleurs mis à jour dans Nouveau Regard sur la Grande Guerre dans Lyon. Vous avez mis à jour la présence de Chinois dans le département de Lyon pendant cette guerre de 14-18.
Absolument, j'ai découvert ça. En fait, je cherchais des Russes. Et en cherchant des Russes, j'ai trouvé des Chinois. Parce que sur les registres de l'hôpital d'Auxerre, hôpital militaire d'Auxerre, donc je cherchais les Russes parce que j'avais découvert le carré des soldats russes enterrés au cimetière du Nant à Auxerre. Et en cherchant mes Russes, j'ai trouvé des Chinois. Alors les Chinois, j'ai donc découvert qu'il y avait une centaine de Chinois, de travailleurs chinois, pas de soldats, de travailleurs chinois qui étaient venus de Chine pour travailler sur le front notamment de la Somme, mais certains avaient été envoyés dans les départements pour différents travaux. Alors, les Chinois qui étaient dans Lyon étaient là à Chemilly, au camp qui stockait les munitions.
Et alors, la présence de ces Chinois dans Lyon interroge quand même, parce que quel statut géopolitique a la Chine en 1914 par rapport à la France pendant ce conflit ?
Alors, la Chine est en ébullition à l'époque, entre les indépendantistes, les impériaux et les nationalistes, et en attendant mieux, c'est-à-dire les communistes de Mao Tse-tung. Donc, à l'époque, la France et l'Angleterre cherchaient désespérément des travailleurs pour remplacer tous les hommes partis au front. Et donc la Chine présentait un réservoir d'hommes très très important, et donc il y a eu des démarches avec le gouvernement chinois de l'époque pour autoriser le départ de environ 200 à 300 000 travailleurs chinois qui sont venus par bateau en Europe, qui ont été dirigés sur le front. Les Anglais en ont pris à peu près la moitié et les Français ont pris l'autre moitié. Et donc, ils ont été utilisés pour creuser des tranchées, installer des voies de chemin de fer près du front, transporter du matériel, etc. Et donc, dans Lyon, il y en a une centaine qui se sont retrouvés au camp de Chemilly.
Alors, un petit mot, Denis Martin, aussi sur les cinq fusillés de Lyon.
Alors, les cinq fusillés de Lyon, pendant la guerre de 14, effectivement, on a relevé cinq soldats français fusillés par l'armée française. Donc c'est Michel Mauny qui a fait le travail de recherche dans les archives militaires, et donc on a découvert que sur les cinq, il y en avait un qui avait certainement été fusillé pour l'exemple, c'est-à-dire dans une période où les soldats français commençaient à renacler à monter au front, notamment pendant l'année 1917, quand il y a eu les révoltes de soldats sur le front. Et un autre qu'on suppose aussi avoir été fusillé pour l'exemple, mais les trois autres ont été fusillés pour des crimes, c'est-à-dire des crimes de civils, des soldats qui, à l'arrière du front, ont commis des larcins, des vols, et ont assassiné, même il y a eu un petit enfant de 2 ans qui a été assassiné dans les bras de sa mère. Et donc là, on est vraiment sur des crimes tout à fait, ordinaires, malheureusement. Et eux, ils ont été fusillés pour ça.
Alors, en feuilletant Nouveau Regard sur la Grande Guerre dans Lyon, paru chez Adiamos, j'ai appris, Denis Martin, que c'est un officier iconais qui a accueilli, alors à la fin de la guerre, les plénipotentiaires allemands pour signer l'armistice.
Oui, il s'agit du capitaine L'Huillier. Le capitaine L'Huillier, il avait des attaches à la Duse et il était capitaine, donc capitaine sur le front. Et c'est lui qui a accueilli les plénipotentiaires allemands le 7 novembre 1918, donc 4 jours avant l'armistice. Et on a retrouvé le télégramme envoyé par l'état-major français aux Allemands, que je vous lis juste la première phrase. Si les plénipotentiaires allemands désirent rencontrer le maréchal Foch et lui demander un armistice, ils se présenteront aux avant-postes français sur la route Chimay-Fourmi. Et la route, sur la route Chimay-Fourmi, qui est-ce qui était en poste ? Le capitaine L'Huillier, qui était originaire de Lyon. Donc c'est donc lui qui a accueilli le convoi de 5 voitures d'officiers allemands qui sont venus négocier l'armistice. Alors ces 5 voitures étaient précédées d'un drapeau blanc. Donc les soldats français avaient ordre de ne pas tirer sur ces voitures allemandes. Et le drapeau blanc, en fait, c'était une grande nappe, de restaurant, et qui avait été récupérée par les Allemands pour faire un drapeau blanc. Et ce drapeau blanc, il a été gardé par la famille du capitaine L'Huillier, qui l'a récupéré. Et le capitaine L'Huillier l'avait fait broder les insignes de son bataillon dessus. Et puis ensuite, il a été un petit peu découpé en morceaux, ce drapeau blanc, et donné à différents musées en France. Et bon, ça c'est anecdotique, mais enfin, c'est assez intéressant.
Moins anecdotique dans Lyon, j'aimerais, Denis Martin, que vous nous en parliez, parce que je sais que vous l'avez beaucoup étudié, c'est un monument aux morts, et c'est celui du village de Gilles-Évêque, qui est particulier.
Oui, alors le monument aux morts de Gilles-Évêque, il est particulier parce qu'il porte sur ses flancs des phrases pacifiste, donc guerre à la guerre et paix entre tous les peuples. Et donc ça, c'était considéré à l'époque comme un outrage aux anciens combattants morts pour la France. Et donc le préfet de Lyon a tout fait pour faire enlever ces inscriptions. Donc il y a eu un jugement du tribunal de Coulanges pour faire enlever ces inscriptions sur le monument de Gilles-Évêque. Alors, comme ces deux inscriptions avaient été inscrites sur des plaques de cuivre, c'était facile de les déboulonner. Mais ensuite, le conseil municipal de Gilles-Évêque a décidé de faire graver dans la pierre directement ces deux slogans, ce qui fait que ce monument aux morts, il est un peu particulier. Il y en a quelques-uns en France, donc donne son attachement à la paix et à la détestation de toutes les guerres.
Enregistré le 23 août dernier lors de la 8e édition de Tous Historiques, c'était Denis Martin, trésorier de l'association Adi Amos 89. Denis Martin, auteur du Grenier d'abondance d'Auxerre 1870-1903, dont il sera question plus en détail après la pause musicale que nous allons vous proposer, et puis également à mentionner toujours un travail passionnant et très riche de recherches et d'informations, les réalisations sociales à Auxerre au temps du Front populaire. Compte rendu de la 8e édition de Tous Historiques, aujourd'hui dans votre émission littéraire sur Radion, on marque une nouvelle petite pause en musique et en chanson. C'est Marie-Flore qui nous interprète « Mon cœur y va bien ». On se retrouve juste après. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur votre radio locale.
Mon cœur y va bien, j'ai juste deux traits. C'est gratinure, c'est rien. Et j'ai pas besoin des premiers soins. Et tu peux garder ton venin, le ravaler. D'ailleurs, si tu regardes bien, c'est moi qui suis sur scène et toi dans les gradins. Il paraît même que tu chantes mes refrains. Tu vois, fallait pas te foutre de moi. Surtout quand je vois ce que tu deviens, toi. Ce que tu deviens, toi. J'ai bien vu tes appels de phare. Ah 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 ah. Mais faut que tu circules,
toi t'as voulu partir. Parier sur le qu'elle allait s'en sortir. Mais y'avait pas 10 000 façons de le faire, de le dire. Non, non, y'avait pas 10 000 façons de quitter le navire. Tu vois, fallait pas.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Si vous avez manqué une partie de cette émission, vous la retrouvez bien sûr sur le site d'archives de Wagon Livre via internet sur le www.yannickpetit.fr. Je rappelle que se trouve également disponible en podcast le Wagon Livre de la semaine dernière qui déjà rendait compte de la 8e édition de la journée du livre d'histoire tous historiques. Aujourd'hui, c'est la dernière partie. Nous allons retrouver Denis Martin d'ici quelques secondes pour évoquer cette fois-ci le grenier d'abondance d'Auxerre, 1860-1903, puis ce travail tout à fait remarquable sur les réalisations sociales à Auxerre au temps du Front populaire. Sans tarder, je vous propose de retrouver le trésorier de l'association Adiamos 89, Association pour la documentation, l'information et l'archivage des mouvements sociaux. Tout de suite, Denis Martin.
Le grenier d'abondance, ce sont des réserves de farine et de blé de façon à pouvoir faire face à des famines ou à des disettes. Bon, ce grenier d'abondance d'Auxerre, il n'a pas vraiment fonctionné. Il a été construit à grands frais par la ville d'Auxerre, un très beau bâtiment pour recueillir plusieurs centaines de tonnes de blé, mais il n'a jamais vraiment fonctionné parce que dans la foulée de 1858, l'empereur Napoléon III a signé des accords commerciaux de libre-échange avec tous les pays d'Europe, ce qui fait que les grains pouvaient arriver maintenant n'importe où, aussi bien d'Ukraine que de Flandre ou de je ne sais pas d'où, et donc il n'y avait plus vraiment problème de famine. En plus, à l'époque, 1860, on est dans le grand développement des chemins de fer, ce qui fait qu'en quelques heures, on peut acheminer des tonnes de farine ou de blé, alors qu'avant, avant les chemins de fer, il fallait des jours et des jours en péniche, en char à bœufs, en char tiré par des chevaux pour alimenter les régions les plus reculées.
Et puis en fait, ce qu'il faut aussi rappeler, et l'histoire de France l'a souvent connu, c'est que lorsqu'il y a pénurie de grains, qu'il y a menace de famine, c'est aussi le début du désordre. La population s'excite, proteste, et ça, le pouvoir politique en a gardé un mauvais souvenir. La peur du peuple qui a mal au ventre et qui a faim.
Absolument. Il faut savoir qu'à l'époque, en 1860, les travailleurs... Je ne parle pas de la bourgeoisie, mais je parle des paysans, je parle des ouvriers, se nourrissent essentiellement de pain. On compte jusqu'à 1,5 kg à 2 kg de pain par jour. Alors ça part avec des soupes, avec des bouillies, etc. En mélange, des légumes, pas de viande. En général, on mange pas de viande encore à l'époque. Et le pain, c'est vraiment la base de l'alimentation. Que vienne... Le grain a manqué, la farine a manqué, et aussitôt c'est l'émeute. Hein. On a eu les dernières émeutes par rapport aux pénuries de grains et de farine, remontent à 1830. Donc quand l'empereur Napoléon III, 30 ans après, pond sa circulaire, Ça fait que 30 ans, donc c'est frais dans les mémoires. On a deux émeutes dans Lyon, une à Saint-Brie, une à Auxerre, où c'est les femmes qui investissent les marchés et qui obligent les marchands de grains à vendre leurs grains au prix d'avant. Parce qu'évidemment, quand il y a une pénurie, hop, les prix s'envolent et le peuple ne peut plus acheter. Peut plus acheter son grain et sa farine. Et donc, les femmes vont au marché, créent des attroupements et obligent les marchands à vendre moins cher.
Alors, évidemment, sur le principe, ces greniers d'abondance, c'est de la prévoyance. Hein, c'est une façon aussi de... c'est un principe de précaution, quelque part, avant la lettre. Et finalement, vous l'avez dit, Denis Martin, ce bâtiment n'a jamais servi, il a existé. Et ensuite, il a eu d'autres fonctions.
Ah oui, parce que la municipalité d'Auxerre s'est retrouvée fort dépourvue quand elle s'est rendue compte que c'était plus utile du tout. Donc elle a commencé par louer ce beau bâtiment à des marchands de grains, qui étaient très contents d'avoir un bâtiment tout équipé. Et puis en 1903, elle a décidé d'installer la Bourse du Travail dans ce bâtiment. Et donc ce bâtiment a servi de Bourse du Travail de 1903 à 1939.
Justement, j'aimerais que vous rappeliez ce qu'est une bourse du travail.
Alors, une bourse du travail, c'est une création des syndicats au 19e siècle qui essayent de court-circuiter les marchands de main-d'œuvre. Il faut savoir qu'avant les bourses du travail, ça se passait comment quand on voulait du boulot, quand on était ouvrier. On allait place de la mairie ou sur une autre place, et là, il y avait des marchands de main-d'œuvre qui disait il me faut 3 maçons, 4 couvreurs, 5 charpentiers. Et eux, ils prenaient leur pourcentage sur le salaire ouvrier. Ce qui fait que les ouvriers détestaient ce système-là. Et donc les syndicats ont mis en place une bourse du travail. Et bourse, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a à la fois une offre patronale et une offre ouvrière. Et que quand les deux se rencontrent, eh bien, on peut se mettre d'accord. Et là, les syndicats, eux, ne prenaient pas de commission sur les salaires ouvriers.
Alors, ce grenier d'abondance donc, est devenu ensuite la maison des syndicats. Et c'est sous le Front populaire, donc à Auxerre, avec un député maire Front populaire qui s'appelle Jean-Michel René Tour. Alors, je rappelle, il est né en 1896 et il est mort en 1986. Une figure auxerroise un peu oubliée, René Tour.
Alors René Tour, c'était un socialiste, il était SFIO au départ, SFIO. Et puis après, il est devenu socialiste indépendant. Mais il a soutenu le Front populaire vraiment de toutes ses forces et il a été élu maire et député, donc député maire plusieurs fois. Il a été élu, réélu et son homosexualité notoire n'a apparemment pas choqué. On aurait pu croire que dans les années 30, il y avait vraiment une prévention énorme contre les homosexuels. Ben, pas du tout. Les Auxerrois lui ont fait confiance plusieurs fois et apparemment c'était un bon maire et tout le monde en était satisfait.
Alors justement, ce grenier d'abondance a ensuite été transformé. Aujourd'hui, on peut peut-être dire ce qu'il est devenu, ce grenier d'abondance.
Alors, le grenier d'abondance, donc Jean-Michel René Tour l'a transformé en école pratique d'industrie. Aujourd'hui, on dirait un lycée technique. Et du coup, la Bourse du Travail, il l'a transférée Place des Vents, où il a fait un bâtiment neuf. Donc ce bâtiment neuf de la Bourse du Travail Place des Vents a été couplé au Théâtre d'Auxerre, qui a été construit à la même époque. Et donc le grenier d'abondance est donc devenu Bourse du Travail, ensuite il est devenu lycée technique. C'est là que les Auxerrois se souviennent qu'il y a eu ensuite un lycée hôtelier, qu'on appelait le lycée Gambetta. Et puis actuellement, ce grand bâtiment, qui a été agrandi plusieurs fois, ce bâtiment est devenu le conservatoire de musique et de danse d'Auxerre.
Alors, autre publication, Denis Martin, vous n'arrêtez pas de travailler et de chercher, bravo, les réalisations sociales à Auxerre au temps du Front populaire. Alors là aussi, on voit que la gauche au pouvoir avait vraiment besoin de faire évoluer la vie et les conditions de travail des travailleurs. Que s'est-il passé ? Qu'est-ce que Auxerre a vu naître au moment du Front populaire où tout était possible. C'était tout de même une victoire incroyable du salariat contre le patronat.
Oui, absolument. Donc, la première réalisation notoire de l'époque du Front populaire, c'est le quartier des HBM à Océas. On dirait HLM aujourd'hui. HBM, habitation à loyer modéré. Et donc là, on a construit tout un quartier avec des blocs de 4 logements. Et chaque logement avait droit à un lopin de terre pour faire un jardin ouvrier. Et donc, c'était des bâtiments, des logements modernes, électricité, eau, toilettes, etc. Pas de salle de bain. À l'époque, c'était pas vraiment à la mode de faire des salles de bain. Et ce quartier a été construit sur la colline qui se trouve entre la porte d'Aiglonie et l'actuel quartier Sainte-Geneviève. Donc, à l'époque, c'était des friches, des anciennes vignes ravagées par le phylloxéra. Et donc, c'était un quartier hors les murs, un quartier extérieur. Et donc, il y a eu plusieurs centaines de logements construits ici. Première réalisation. Deuxième réalisation par la municipalité du Front populaire à Auxerre, le théâtre. Alors, à l'époque, on disait la maison du peuple. Parce qu'en fait, c'était à la fois une grande salle de spectacle pour faire du théâtre, mais aussi des séances de cinéma, des concerts de musique. Mais dans tout le reste du bâtiment, qui est très très vaste, hein, il y a des étages, il y a une aile de chaque côté, c'était pour diverses activités autres que le théâtre. Donc il y avait le PLPB garçon, le PLPB fille.
Qu'est-ce que le PLPB ?
PLPB, c'est le patronage laïque Paul Bert. C'est une des associations loi 1901 qui s'occupait de la jeunesse. Et dans les étages, il y avait des salles, une salle de boxe, une salle d'escrime. En bas, il y avait aussi une salle de gymnastique. Enfin, il y avait tout un tas d'activités autres que le théâtre. Donc, on appelait ça la maison du peuple. Donc ça, ça a été construit en 1939, en même temps que la nouvelle bourse du travail, Place des Vents. Et donc, tout ça, ça fait partie du patrimoine du Front populaire.
Alors, à l'intérieur du théâtre, quelques belles fresques, quelques peintures qui datent de cette époque ou qui sont postérieures à l'époque du Front populaire ?
Alors, elles sont légèrement postérieures. Les peintures ont été faites en 1939. En 1939, le Front populaire était déjà mort, de sa belle mort, mais la municipalité socialiste était toujours en place. Et donc, le peintre qui a fait ces belles fresques a commencé en 39, il a fini en 40. Donc ça a été assez rapide pour les fresques. Le théâtre n'a pas pu fonctionner tout de suite parce qu'il n'y avait pas les sièges, il n'y avait pas les parquets, il n'y avait pas. Donc les finitions ont été faites après la guerre.
À notre micro, le trésorier de l'association Adiamos 89. Adiamos, association pour la documentation, l'information et l'archivage des mouvements sociaux, Denis Martin, auteur de deux publications historiques intitulées Le grenier d'abondance d'Auxerre 1860-1903 et mentionnons également les réalisations sociales à Auxerre au temps du Front populaire. On va marquer un nouvel intermède musical. Je rappelle que nous vous avons proposé aujourd'hui un compte-rendu non exhaustif, bien sûr, de la 8e édition de la journée du livre d'histoire qui s'est tenue le 23 août dernier à Toussy. C'est Toussy historique, l'édition 2026 est en cours de préparation. Je voudrais d'ailleurs saluer et remercier Anne-Cécile et Jean-François Faure de la librairie Joffac de Toussy, librairie partenaire de ce bel événement qui connaît un grand succès auprès des amateurs amoureux d'histoire locale et nationale. Je voudrais les remercier bien sûr pour leur invitation, leur confiance et leur accueil chaleureux. Et bien sûr, une mention toute particulière à mes amis Sylvie et Jean-Jacques Ricard qui œuvrent de manière bénévole avec toute une équipe dynamique et chaleureuse pour l'organisation de ce Toussy historique journée du livre d'histoire. On marque un dernier intermède musical dans ce wagon livre sur Radion. Je vous offre Il y en a moins joli.
C'est le jour où l'été est arrivé. Le jour où nous avons rangé
nos ratés, comme l'on jette parfois du mobilier abîmé. On a déposé notre amour sur un trottoir du quartier. Alors sans cri, nous avons ri, comme pour courir le bruit de nos sanglots. Timidement, on s'est dit, restons amis, comme si c'était beau. Pourtant, c'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de rose, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour. C'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de rose, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre. C'est le jour où nous sommes sortis du rêve avant la fin, comme si l'on avait peur qu'il ne finisse pas bien. C'est le jour où, au fond de moi, j'ai espéré que notre adieu dise à demain. Comme un accord stupide, on s'est promis qu'on s'appellerait encore, qu'on se dirait bonne nuit. Malgré la solitude des matins, des réveils froids, on ne regretterait rien. Pourtant, c'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de rose, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour. C'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de rose, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour.
Notre wagon livre touche pratiquement à sa fin. Je voudrais rappeler un événement qui va avoir lieu le dimanche 23 novembre prochain. C'est le Salon du Livre de Migène qui se tiendra à la salle des sports de 10h à 18h. Et puis je voudrais également vous encourager à aller découvrir, si ce n'est pas déjà fait, le site internet de l'association Adiamos 89, association pour la documentation, l'information et l'archivage des mouvements sociaux, parce que sur ce site, vous allez pouvoir lire un grand nombre d'articles, tous en lien avec l'histoire locale, et notamment un article a retenu mon attention, parce que suite au récent cambriolage du Louvre qui a marqué les esprits, Xavier-François Leclencher nous rappelle un vol qui défraya la chronique en 1814, le vol des bijoux de la reine de Westphalie, à découvrir donc sur le site de l'association Adiamos 89. Je voudrais aussi adresser des remerciements. Je salue et je remercie Anne-Cécile et Jean-François Faure de la librairie Joffac de Toussy, qui est partenaire de Toussy Historique, pour leur invitation, leur confiance et leur accueil. Je salue aussi tous les bénévoles absolument chaleureux et formidables qui nous ont accueillis avec beaucoup de sympathie. Et puis, une mention toute particulière à d'anciens libraires, Sylvie et Jean-Jacques Ricard, particulièrement investis dans l'organisation de Toussy Historique. Sylvie et Jean-Jacques Ricard qui furent libraires à Tonnerre. En tout cas, l'édition 2026 est déjà en cours de préparation et on ne peut que s'en réjouir. Pour ma part, je vous donne rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h sur Radion. Samedi 15 novembre prochain, nous vous proposerons un entretien avec Rachel Mourier, qui a signé l'an dernier un premier roman aux éditions du Seuil intitulé « Petite Lisa ». Je vous livre d'ailleurs la quatrième de couverture pour que vous soyez un petit peu plus informés sur ce dont il sera question la semaine prochaine. En 2010, Lisa revient en France sur les traces de son passé, après avoir vécu plus de 60 ans en Slovénie. Dans l'avion qui la conduit à Paris, la vieille dame, fragile, est aidée par Evelyne, qui l'accueille chez elle avec son mari et sa fille. Les deux femmes se lient d'affection. Solitaire et secrète, Lisa est peu à peu amenée à livrer le récit de son enfance dans les années 1930 à Dijon, sa ville natale. Un bonheur tranquille au sein d'une famille aimante, avec une petite sœur au caractère bien trempé, une mère chapelière, un grand-père entomologiste, un père germaniste et pacifiste. Mais cette famille française est aussi une famille juive. Dès 1942, Lisa doit se cacher dans un village de Bourgogne jusqu'à sa déportation à Auschwitz. Si elle survit à l'indicible, c'est grâce au souvenir des siens, au secours d'une femme médecin admirable, à l'amitié inconditionnelle d'une camarade d'infortune. Enfin libérée du fardeau de ce passé si longtemps occulté, Lisa va pouvoir retrouver les lieux de son enfance et quelques secrets oubliés. C'est vraiment un roman bouleversant entre hier et aujourd'hui sur la vie d'une rescapée de la Shoah, portée par des personnages d'une grande force évocatrice. Quant à Rachel Mourier, que vous entendrez samedi prochain sur Radion dans votre émission littéraire, elle est maîtresse de conférences à l'École pratique des hautes études à Paris, où elle poursuit ses recherches sur la littérature de voyage, après avoir enseigné la langue et la littérature française au sein d'universités nord-américaines. Je rappelle que Petite Lisa est le premier roman de Rachel Mourier que vous entendrez samedi 15 novembre à 11h sur Radion. Un entretien qui a été enregistré en public dans la galerie de peinture de Yannick Perrin à Semur en Auxois, dans le cadre du Cercle des auteurs bourguignons, un événement culturel initié par le libraire de Semur en Auxois, mon ami Cyril Lefebvre. Merci de votre écoute régulière, de votre curiosité, et je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, toujours à 11h sur votre radio locale. Et en attendant, je vous souhaite un excellent congé de fin de semaine. Au revoir et à très bientôt.